Les Assises de l'immobilier de Metz 2024 sur Radio Immo.
Et le débat oppose le droit à la propriété et à l'accès universel au logement. Une question sur l'équilibre entre ces deux enjeux dans une période de crise. On va en parler avec nos invités. Danielle Dubrac qui est avec nous, présidente nationale de UNI. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour Danielle, on va en parler également avec madame la députée Annaïg Lemeur, députée de la première circonscription du Finistère, également rapporteure au logement du PLF 2024. On va discuter avec vous logement. De l'autre côté, Cécile, nous avons...
Et Jean-François Prévost, directeur général de Batigère Group, bailleur local.
Et Pierre Solaire Couteau, avocat au barreau de Strasbourg, également professeur à l'université de Strasbourg.
Alors, vous l'avez vu hein, sur l'affiche, Guillaume Gasparian, qui est ministre des missionnaires du logement, ne peut pas, pour des raisons que vous connaissez, être présent aujourd'hui. Mais on a une petite surprise. Il nous écoute, il est là en visio avec nous. Il a eu la gentillesse de répondre par la positive. C'est Julien Normandie qui est avec nous, ancien ministre du logement et de l'agriculture et responsable aujourd'hui de l'impact de la Green Tech Sweep. Je vous demande d'applaudir nos invités déjà. Merci beaucoup.
Alors Cécile, vous l'avez dit en introduction, donc il y a le droit au logement d'un côté, le droit à la propriété de l'autre. Et c'est vrai qu'en cette période de crise, on sait qu'on manque de logements en France, ces deux droits peuvent rentrer en contradiction. C'est ce que nous allons voir avec nos invités.
Notre avocat peut-être pour tout nous expliquer déjà.
Ah bah oui, parler de ces deux droits, le droit au logement, le droit à la propriété.
Petit état des lieux. Vous avez 5 heures.
Oui, il faut que le juriste reste à sa place, évidemment.
Non, peut-être parler pour commencer du droit à la propriété, donc qui s'inscrit dans la DDCH.
Oui.
Alors, expliquez-nous.
C'est tout à fait ça. Si le juriste reste à sa place, il va, je dirais, faire le bilan. D'un côté, il y a un droit de propriété qui est un droit inviolable et sacré, comme chacun sait depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De l'autre côté, il y a un droit au logement qui émerge progressivement. Ils n'ont pas la même nature, on pourra peut-être le développer. Ils n'ont pas non plus la même valeur juridique. Et pour un juriste, quand il s'agit de concilier, évidemment, ces deux paramètres-là sont absolument déterminants. La nature d'un côté, un droit fondamental et un droit économique et social auquel on a du mal, nous les juristes, à reconnaître la qualité de droit de l'homme, et d'autre part, une valeur juridique, d'un côté le droit de propriété, droit inviolable et sacré d'une part, et d'autre part un droit au logement, ce qui est un objectif de valeur constitutionnelle, simplement un objectif de valeur constitutionnelle, on n'y a jamais reconnu la qualité de principe constitutionnel, de droit constitutionnel, objectif de valeur constitutionnelle, mais j'en termine par là, assis quand même sur d'abord le devoir de solidarité de la nation, d'une part, et d'autre part, finalement, le respect de la dignité humaine, ce qui lui donne quand même une certaine consistance.
Jean-François Prévost, vous êtes directeur général de Batigère Group, bailleur social. C'est un sujet qui vous, que vous connaissez par cœur, ce droit au logement aujourd'hui. Combien de personnes aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres sur le logement social?
Alors effectivement, dans le logement social, bonjour à tous, dans le logement social, il y a un chiffre qu'on entend toujours, c'est le nombre de demandeurs non pourvus. Donc actuellement, il y a 2 700 000 personnes qui attendent un logement social.
C'est 100 000 de plus, je crois, que l'année dernière. Hein.
Ça progresse malheureusement en permanence. Donc on a le souci de créer de l'offre. Et pour parler effectivement des deux notions que vient d'aborder Pierre, on a le droit au logement d'un côté, on a le droit de propriété de l'autre. Le groupe Batigère, c'est le 5e bailleur en France. Local et pas que, et on est une entreprise privée. Donc comme toute entreprise privée, on est évidemment très attentif au droit de propriété, à pouvoir arbitrer nos logements en partie pour pouvoir refaire de l'offre. Quand on en vend un, on en refait trois, donc c'est hyper important de nous le permettre. Et puis de l'autre côté, évidemment, quand on regarde nos attributions, on a 25% de nos attributions avec la loi Dalo qui doivent se faire auprès de publics extrêmement fragiles. On va souvent au-delà de ce quantum obligatoire de la loi. Et donc, par essence, un bailleur social, il est sur les deux notions. Et c'est évidemment moins le cas quand on est une entreprise privée. Antérieurement, je dirigeais un groupe privé, qui est le groupe Quadral, dans lequel, évidemment, quand on parle du droit au logement à un propriétaire, il s'étouffe. Il s'étouffe parce qu'effectivement, il trouve que c'est complètement contradictoire à la logique dans laquelle il est. Et il faut faire évidemment preuve de pédagogie, de beaucoup de pédagogie, parce qu'il a des moyens d'agir, mais on peut considérer que il éprouve de la frustration légitime, mais les administrateurs de biens que nous sommes ici autour de la table avons la possibilité aussi, je pense, le devoir d'expliquer un certain nombre de choses et de montrer aux propriétaires comment ils peuvent reprendre la main sur un certain nombre d'actions qui sont liées au droit de propriété tout en respectant la loi, parce que c'est la loi.
Je rappelle juste, parce que c'est vrai que ça se comprend, le droit de propriété, c'est le droit, donc c'est à usus, fructus et abusus. Vous confirmez, maître? Donc c'est le droit d'utiliser son bien à titre personnel, le droit de percevoir les loyers de ce bien, et le droit, abusus, c'est de le détruire, hein, si on a envie. Donc le propriétaire, dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, a le droit de faire ce qu'il veut de son bien.
Et dans le code civil, ce qui est quand même pas neutre, aussi c'est repris comme un droit individuel, comme une espèce d'attribut de la liberté, un prolongement de la liberté, ou une condition même de la liberté.
Oui. Anaïg Lemeur, vous êtes députée de la première circonscription du Finistère, rapporteur logement PLF 2024. Quelles sont les politiques publiques justement pour protéger ces deux cadres, en tout cas ces deux lois?
Alors les politiques publiques, elles sont notamment par la loi Dalo, comme que vous avez cité, qui donne en fait ce droit au logement pour tous, notamment pour les plus démunis. Effectivement, on voit bien que la difficulté qu'on trouve actuellement, qui est liée à la situation de crise et d'accès au logement, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a une tension qui s'est créée, notamment dans le parc privé. Des gens qui pouvaient bénéficier de logements à prix abordable dans le parc privé se retrouvent en situation de plus complexe actuellement, parce que le prix n'est plus abordable pour plusieurs raisons, parce que les usages liés aux biens ont changé, c'est-à-dire que des biens, notamment sur le sujet que j'ai pu traiter dans les propositions de loi sur les locations de courte durée, ont capté en fait certains biens qui étaient mis à disposition, et notamment des petits logements, pour des populations peut-être qui avaient besoin d'être logées, et se retrouvent à se reporter justement sur le logement social, qui se retrouve embouteillé, complètement embouteillé par rapport à ça, et donc du coup la notion de droit est devenu criant. Les gens, en fait, dans mon territoire, je suis de Bretagne, sont arrivés à manifester, à dire, nous avons besoin de nous loger, notamment pour travailler, et comment on fait? Donc ils se sont retournés effectivement vers les logements sociaux où la demande a accru, mais on n'a pas de solution immédiate pour eux. Donc c'est vrai que la situation s'est complexifiée ces derniers temps.
Et en Bretagne, il y a aussi ce problème des résidences secondaires, non?
Effectivement, en Bretagne, en fait, on a énormément de résidences secondaires. La plupart sont détenues par des Bretons. Il faut quand même le savoir, 42% des résidences secondaires en Bretagne sont détenues par des Bretons. Donc on ne peut pas dire qu'on a eu cette invasion
des Parisiens.
En Bretagne, des Parisiens notamment, c'est toujours la discussion. Et effectivement, le littoral en général, on parle de la Bretagne, mais le littoral en général, que ce soit notamment dans le Pays Basque, où la tension est de plus en plus forte et quasiment violente, parce que moi, derrière, c'est ça que je crains, derrière, c'est qu'il y a cette notion de droit et de se dire, je travaille, j'ai droit à un logement, parce que je m'intègre dans cette société, et face à ça... Le constat, c'est qu'il y a des résidences qui sont utilisées ou très peu utilisées au niveau de façon annuelle, c'est-à-dire que des biens qui sont utilisés des fois maximum 90 jours par an, alors que derrière, il y a des personnes qui veulent se loger à l'année, qui vont sur des habitats qui sont tout autres et qui peut-être ne sont pas à la hauteur de la dignité qu'on pourrait attendre dès lors qu'on est salarié au niveau d'un territoire.
Daniel Dubrac, pardon, vous êtes présidente de nationale de l'UNI, hein, première organisation professionnelle de l'immobilier, par la diversité de ces métiers. Est-ce que ces deux sujets, il faut à un moment donné avoir le courage de les hiérarchiser?
Il ne faut surtout pas opposer le droit au logement et le droit à la propriété, c'est un petit peu ce qui se passe. Et puis sur la loi Dalo, je ne sais pas s'il y a eu un inventaire de faits, mais franchement, il faudrait le faire parce que c'est compliqué. Mais moi, je voudrais vous dire ce que l'UNIS et l'UNPI ont essayé de faire. On a essayé de poser au Conseil constitutionnel une QPC. Et donc, pour poser une question prioritaire de constitutionnelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par le Conseil d'État. Pourquoi est-ce qu'on a posé cette question? C'était sur le droit de propriété. Comme un logement est indécent quand il est indécent parce qu'il n'est pas performant, du coup on ne peut pas le louer, est-ce que le droit de propriété était atteint? Et donc on a profité d'un décret au Conseil des Cap pour faire un recours, et on a demandé est-ce que cette interdiction de louer spoliait le droit de propriété? Et en réalité, le Conseil d'État n'a pas transmis la QPC au Conseil constitutionnel. Il a tranché en amont. Il a tranché de la façon suivante. C'est intéressant quand même, si vous n'êtes pas au courant de tout ça. C'est que l'interdiction de louer ne porte pas atteinte au droit de la propriété. Ça limite simplement le droit de la propriété, ça le limite. Et donc, du coup, cette interdiction de louer, ils ont expliqué que la limite de cette interdiction se justifie par, justement, deux aspects de valeur constitutionnelle. Le premier aspect, c'est de dire qu'après tout, pour avoir un logement décent, ben, le juge peut ordonner des travaux, dans le cadre de la loi de 89. Et le deuxième point, et ça, c'est important, c'est au nom du droit de l'environnement. Et donc la conclusion que je souhaiterais donner sur ce point, c'est que le droit de l'environnement l'emporte sur le droit de la propriété et sur le droit au logement.
Les professionnels aujourd'hui parlent d'un manque d'offres, hein, les pouvoirs publics prétendent qu'il est suffisant. Alors, avec vous, Jean-François Prévost, aujourd'hui, et vous le disiez tout à l'heure, un grand nombre de personnes cherchent aujourd'hui un logement. Donc, quand on nous dit que le potentiel est suffisant, qui dit vrai et qui dit faux ?
Alors, le potentiel en chiffres, il est toujours suffisant. C'est-à-dire que si on a l'idée depuis quelqu'un qui prend un texte que les gens vont aller habiter des logements dans la Creuse alors qu'ils n'y travaillent pas, effectivement, on peut se dire intellectuellement qu'on y répond, mais on n'y répond pas, puisque effectivement la métropolisation autour des 22 grandes métropoles en France, elle est très forte, donc c'est bien là où on a le besoin principal de logement, et j'imagine que l'ancien ministre qui nous écoute devrait plutôt abonder dans ce sens-là. Donc on a une question de métropolisation, donc c'est bien d'avoir des logements, mais il faut les avoir proches de l'emploi et puis accessibles, vous l'avez également dit. L'offre dont on aurait besoin, elle est bien supérieure à celle qu'on est capable de faire.
Oui, parce que y a les dernières études, bon, grosso modo, les études, c'est entre 400 000 et 500 000 logements nécessaires par an supplémentaires. Hein. Donc il faudrait construire 400 000 ou entre 400 et 500 000 logements.
Oui, en gros, dans les 20 années qui viennent, il faudrait qu'on soit sur ce rythme-là. Et après, ça viendrait à décroître.
Oui, sachant que l'année dernière, il y a 283 000 logements qui ont été construits uniquement.
Exactement. Et un peu moins de 100 000 logements sociaux sur ce total-là.
Ouais. 80 000, je crois, c'est ça.
Voilà. Alors que la logique normale pour les logements sociaux serait plutôt d'être autour de 150 000 logements. Ouais. Donc on est loin du compte. Et donc ça s'explique parce que le logement social, il est financé notamment par le livret A, et le taux du livret A, ben, il est passé de 0,75 à 3. Ça paraît des petits chiffres, mais tout est indexé là-dessus, donc pour des bailleurs sociaux. C'est une contraction très forte du modèle économique, avec des loyers qui évoluent, mais qui n'évoluent pas à ce niveau-là, et qu'il n'est peut-être pas non plus très souhaitable de faire évoluer démesurément, puisqu'il faut que ces loyers soient supportables aussi pour la population. Donc on est sur des hiatus, effectivement, qui ne sont pas très simples à résoudre actuellement, sachant que dans l'offre privée, on met fin au Pinel, mais il n'y a pas grand-chose derrière.
Ouais. Donc le Pinel, c'est niche fiscale. Voilà. Ouais.
Voilà. Et il y a un statut fiscal globalement de l'investisseur privé qui n'a fait que se dégrader dans les dernières années. Donc les deux pieds finalement sur lesquels on est assis, l'investissement privé, l'investissement des bailleurs sociaux, est un peu grippé pour des raisons différentes, mais il est grippé.
Quels sont les points justement d'amélioration, Madame la députée, sur ce sujet-là, quand on se projette, sur quoi on peut améliorer la fiscalité, c'est quoi l'avenir aujourd'hui de l'immobilier ?
Alors je voulais juste compléter juste l'intervention précédente en disant qu'aussi il y a les usages vis-à-vis des biens qui ont complètement changé, oui. Donc du coup la composition familiale, etc., qui fait qu'on a besoin de plus de biens aussi sur notre territoire.
La population augmente aussi. Hein.
La population augmente, elle vieillit.
On est moins nombreux par foyer.
Aussi, elle reste plus longtemps en fait dans son habitat, donc il y a eu tout un changement où le parcours résidentiel n'est plus le même. Ce qu'on pourrait changer, en fait, il y a plusieurs choses. Effectivement, l'objectif est de recréer un climat pour rassurer justement les investisseurs, pour pouvoir...
Climat de confiance.
Un climat de confiance à redonner.
Quand vous parlez d'investisseurs, c'est les investisseurs particuliers.
Hein. Notamment pour les particuliers. Pour les autres, effectivement, ils sont soumis à des taux de livret A, etc. Il y a des choses qui sont contraintes.
Donc on a besoin des particuliers pour
loger les Français. On a besoin des particuliers demain pour continuer à investir dans le parc. Et on a besoin d'eux sous des critères. Alors, certains veulent effectivement remettre le Pinel, le prolonger, mais le Pinel, c'est un coût très fort pour l'État, donc c'est pas forcément dans le contexte actuel. Maintenant, avoir d'autres outils, effectivement, pour avantager cet investissement, c'est fort possible. Il y a des outils qui existent déjà, qui sont, moi, j'ai fait un rapport dernièrement sur des propositions de réforme sur la fiscalité locative. Donc avec justement une harmonisation de la fiscalité pour la rendre plus favorable justement à la location. Alors je ne raisonne plus en nu et meublé, je raisonne plus en courte et longue durée. Donc plus sur la longue durée, rendre plus avantageux de louer à l'année que de louer en courte durée. parce que c'était pas du tout le cas actuellement. Actuellement, vous le savez tous, je pense ici, c'était bien plus favorable de louer dans la courte durée que de louer en longue durée, que ce soit au niveau des abonnements forfaitaires, que ce soit au régime réel. Donc il y a déjà cette harmonisation fiscale à faire.
Ça veut dire que là, il faut vraiment encadrer encore plus, resserrer ?
Ah, il faut resserrer. Ah, il faut... En fait, on n'est pas en capacité de remettre de l'argent sur la table. Donc il va falloir transférer l'argent qui est déjà existant. Ce n'est pas une question de recréer une dépense supplémentaire, c'est d'orienter politiquement sur un objet qui nous intéresse. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui ? C'est d'avoir du logement à l'année pour tous. Mmh. Donc il va falloir en fait transférer l'argent qu'on avait mis pour des raisons fiscales. À un moment, on a voulu des boosters pour une économie de tourisme. Maintenant, on voit bien que c'est devenu exponentiel. Donc on parle de 80 000 logements de courte durée en 2014. On est passé à 1,2 million. Donc effectivement, c'est autant de logements qui ne sont plus à disposition des salariés. Donc il y a quelque chose déjà à faire sur ce domaine-là. Et au-delà de ça, c'est effectivement avoir peut-être un outil d'incitation. Dans le rapport que j'avais remis au Premier ministre, il y avait notamment le dispositif Loc Avantage, qui est peu utilisé, peu connu, parce qu'il n'offrait pas une rentabilité suffisante en fait, pour les investisseurs. On en est conscient, il faut peut-être le reconsidérer, lui redonner des modalités plus simples d'exercice et qui permettra à chacun justement de continuer à investir.
Ça veut dire qu'on va aujourd'hui, on peut pénaliser ceux qui ont été aidés justement pour créer des...
Non, le but du jeu n'est pas d'aller dans la sanction, il est peut-être d'aller sur un modèle à terme, c'est-à-dire ceux qui sont dans ce qu'on appelle le
stock. De conciliation ?
Dans le stock, en fait, on ne va pas changer, on va peut-être mettre des accélérateurs justement à des notions d'amortissement pour que les amortissements se fassent dans un délai plus court et qu'on puisse arriver à une situation de départ, on va dire, dans 5 ans, et de se dire, là, on reconsidère dans 5 ans l'ensemble de la fiscalité. C'est plutôt sur ceux qui sont entrants dans le flux où il faut changer les modalités. Mais on ne va pas sanctionner, bien évidemment, ceux qui ont mis en place un business plan. Je veux dire, on va se retrouver derrière, autrement, avec une foule de mécontents.
C'est une bonne nouvelle.
Voilà, non, mais... Il faut être un petit peu humain aussi, on n'est pas là que pour... mais évidemment que l'objectif, par contre, est d'accélérer leurs amortissements parce que ça crée en fait un déficit budgétaire qui est fort et qui du coup est reportable aussi sur un déficit global. Là, au bout d'un moment, on ne peut plus. Donc il faut le dire clairement, 70% des gens qui ont investi et qui en sont au régime réel dans des logements de courte durée ne payent pas d'impôts. Donc à un moment, il faut être solidaire. Et la solidarité, c'est ce qui fait que nous sommes ici tous ensemble vers du logement social, vers une envie que chacun puisse se loger à terme. Donc,
Maître, est-ce qu'on touche là au droit à la propriété quand on... Est-ce qu'on...
Oui, évidemment, on touche droit au droit de propriété, mais la question que je me pose, si vous voulez, c'est finalement, en amont du sujet qui nous a été proposé, c'est pourquoi on en arrive là, à cette collision entre le droit de propriété et le droit au logement. C'est probablement parce que, finalement, il y a une offre qui n'est pas satisfaite, enfin, c'est un peu sommaire, mais je crois que c'est quand même cela, et elle n'est pas satisfaite alors même qu'il y a finalement une forme de vacance, mais j'emploie le terme de vacance au sens large du terme, y compris ce que vous venez d'aborder, madame la députée. Et du coup, effectivement, on se pose la question de savoir pourquoi des propriétaires d'immeubles disponibles n'arrivent pas à le mettre à disposition pour satisfaire la demande. Et je suis quand même étonné. Je pense que les cartes sont redistribuées. D'une certaine manière, la loi climat et résilience va obliger à accentuer encore quelque chose qui était déjà là dans le droit de l'urbanisme, c'est-à-dire à vraiment évaluer la vacance et à mettre en œuvre des dispositifs qui existent véritablement pour mettre fin à la vacance. Par exemple, la taxe, c'est un outil, mais la taxe sur les logements vacants, parce qu'il y a aussi beaucoup, mais je parle sous votre contrôle, beaucoup de propriétaires qui aujourd'hui ont un bien disponible mais ne peuvent pas le mettre à la location à cause des critères effectivement qui sont aujourd'hui importants.
Donc, les notes énergétiques, oui.
Ouais, la loi climat et résilience va quand même obliger, parce que finalement, curieusement, on aura moins de foncier disponible pour construire, d'une certaine manière. Donc, on va obliger à mobiliser pour de bon, cette fois, les logements vacants. Il y a la question des résidences secondaires. Alors, vous avez parlé du Finistère, du Pays Basque, il y a la Corse. Mais j'étais récemment en Martinique pour l'élaboration du schéma d'aménagement, enfin, la révision du schéma d'aménagement régional. Il y a une vacance incroyable, enfin, totalement disproportionnée.
Alors qu'est-ce qu'on appelle vacances ?
En Corse également. Oui.
Qu'est-ce qu'on appelle vacances ? Parce que là, par rapport au logement vacances, c'est vrai qu'il y a un peu, on entend un peu tout et n'importe quoi. Il y a les chiffres de l'INSEE qui sont, je crois que c'est plus d'un million, 1,5 million de logements vacants. Il y a les chiffres de l'Observatoire Clameur qui, eux, disent que c'est pas du tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a ?
Ben aujourd'hui, si vous voulez, finalement, tous les documents d'aménagement et d'urbanisme ont l'obligation de recenser la vacance. Mais l'exemple récent, par exemple, de l'Eurométropole de Metz montre que ce n'est pas si facile, d'abord. Et une fois qu'on a identifié la vacance, mobiliser, c'est encore un autre débat.
Avec Jean-François Prévost, je reviens sur cette loi climat et résilience, zéro artificialisation nette en 2050, ça veut dire perte de foncier. Pour vous, c'est une catastrophe, en fait.
Alors, oui et non, pas forcément.
Petite, alors. Petite.
Non, pas forcément. C'est-à-dire que si on imagine que le monde ira mieux en fabriquant des nouvelles ZAC tous les 5 minutes à l'extérieur des villes, à étendre le périurbain sans cesse, ça veut dire qu'on doit faire des bus, ça veut dire qu'on doit recréer des écoles, etc. En fait, on complique quand même la vie globale du pays. Nous, alors je parle vraiment au nom de Batigère facilement sur le sujet. Ça fait 40 ans qu'on adore prendre des sujets pas très marrants au départ, des casernes, des usines qui ont fermé, etc., et les restructurer. Et je crois que ce modèle-là qu'on mène, on est de plus en plus nombreux à le faire.
Le réemploi, en fait.
Le réemploi, le recyclage urbain. Dernièrement, enfin il y a quelques années, si vous baladez dans Metz, vous allez sur la colline Sainte-Croix, vous tombez sur une ancienne maternité qui est du logement social, qui est magnifique, qui vaut en termes patrimonial architectural du Malraux. Voilà.
En revanche, ça coûte plus cher de reprendre une friche.
Alors, ça coûte cher. L'avantage du logement social, c'est qu'on a des prêts qui sont d'assez longue durée, et donc on a la possibilité de porter des opérations très compliquées, relativement chères, pour y placer des personnes qui ont accès au logement social et qui ont besoin de ces logements-là, et qui auront le plaisir d'habiter en centre-ville. Donc oui, il y a une contrainte, mais c'est dans la contrainte aussi qu'on fait de belles choses. Il n'y a pas de logique à avoir des modèles de ville qui se répandent en permanence à 10, 20, 30 km du centre-ville, alors qu'au centre-ville, on a des verrues urbaines qu'il faut traiter. Donc on traite les verrues urbaines. Alors évidemment, on a un problème de quantité, parce qu'on ne fait plus des programmes de 200 logements facilement en traitant des petits bouts de ville. Donc il y a ce problème de quantité. Mais en qualité, ça donne quand même des choses qui me semblent hyper pertinentes,
ah oui, c'est
hyper
beaucoup intéressantes. Beaucoup plus élégant pour les yeux, ça c'est sûr.
Voilà.
Daniel Dubrac, alors vous qui représentez l'UNIS, quel est le positionnement de l'UNIS ? On ne vous a pas entendu sur justement un régime fiscal, un statut du bailleur privé. Qu'est-ce que vous avez longtemps milité pour ça ? Quel est votre avis là-dessus, justement, pour inciter les particuliers à investir dans l'immobilier ?
Pour inciter les particuliers à louer leur logement ?
Exactement.
Voilà. Mais bon, tout à l'heure, vous parliez de vacances, mais il y a la vacance qui est subie, puis la vacance qui est voulue. Donc, la vacance est subie, c'est parce que le logement n'est pas décent, il y a des travaux à faire, on ne peut pas les financer. La vacance entre deux locataires, donc tout ça. Et puis, la vacance qui est voulue, parce qu'on a besoin d'un pied-à-terre. Il ne faut pas quand même oublier que avec cette notion de droit de propriété, les usages ont changé. Voilà, donc on est en colocation, il y a le BRS, il y a les indivisions. Il y a tout ça, on télétravaille, on consomme différemment. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Nous, au niveau de UNIS, mais pas que de UNIS, il y a aussi la FNIM, je salue Loïc Quentin, et puis l'UNPI, enfin d'autres, dans le cadre de l'Alliance pour le logement, on est quand même pour le statut du bailleur privé, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, l'État, le logement social, ne joue pas son rôle. Ne joue pas son rôle parce que c'est pas, il n'y a pas assez de logements sociaux. Et donc, du coup, c'est le bailleur privé particulier qui va loger les gens qui ne sont pas, qui trouvent pas de logement. Et donc, si vous ne trouvez pas un régime adapté aux bailleurs privés particuliers, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Si vous faites subir des taxes, si vous faites subir des obligations, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est important. Donc l'évolution a changé. Le bailleur privé, c'est très important qu'on l'encourage. Bon, donc on parlait de l'amortissement, etc. Sur la loi location touristique, ça peut être intéressant parce que du coup, sur les longues durées, on va essayer de les favoriser, qu'elles soient en meublé ou non, peu importe. Mais il faut encourager ce bailleur-là. Donc ça, c'est le premier point qu'on dit. Après, sur la rénovation, comme la loi climat est là et qu'elle s'impose à tous, il faut trouver des solutions pour rénover. Donc surtout, ne touchez pas ma prime rénov en l'état actuel de ce qu'elle a évolué depuis le 15 mai 2024, ça c'est très important. Trouver des solutions aussi pour les primo-accédants, pour qu'ils puissent se loger. Voilà, c'est un peu ça les arguments d'un syndicat professionnel comme l'UNIS, évidemment. Sinon, ça ne va pas le faire, on ne va pas y arriver. Et alors, tout ça, ça a bougé, le droit de la propriété a bougé. Le seul truc qui n'a pas évolué quand même, c'est la loi de 65. La loi 65 n'a pas évolué. Elle va fêter l'année prochaine ses 60 ans. Évidemment, elle a été toilettée, elle a été adaptée. Ça a bougé au niveau des textes.
Si vous mais pouviez la rappeler pour nos étudiants.
Sur l'essentiel, ça n'a pas évolué. Les intérêts particuliers versus les intérêts collectifs. Voilà. Et dans ce monde du droit de l'environnement, de la loi climat et du DPE, n'opposez pas les DPE individuels aux DPE collectifs. Faites quelque chose pour le DPE collectif. Voilà. C'est un peu ça le message. Dans l'urgence de l'urgence, en attendant un ministre du logement.
Madame la députée, est-ce qu'il faut réguler, là on parle beaucoup de spéculation immobilière, comment réguler aussi cette spéculation?
Elle est difficile à réguler parce qu'il y a quand même une forme de libéralisme où chacun a le droit aussi de pouvoir investir et d'en retirer le profit. Donc il y a quand même des leviers à faire. C'est peut-être réorienter en fait justement ces investissements, notamment dans la loi que j'espère qui va être votée prochainement, donc sur la régulation du meublé de tourisme. Il y a un petit article qui est intéressant, qui change un petit peu la donne, qui est en fait une notion de servitude de résidence principale. C'est-à-dire qu'au niveau des plans d'urbanisme, habituellement, vous ne pouvez pas désigner en fait l'usage, mais simplement la destination au niveau du plan d'urbanisme. Et là, en fait, je mets un usage, c'est-à-dire je dis à tel endroit, dès lors que dans votre commune, vous avez plus de 20% de résidence secondaire, vous pouvez déterminer que les constructions futures seront uniquement à usage de résidence principale. Donc résidence principale, ça ne veut pas dire être propriétaire occupant, ça veut dire qu'on peut louer à quelqu'un, mais qui occupe le bien à l'année. Et donc c'est quelque chose qui a été demandé notamment par de nombreux élus pour pouvoir mieux gérer justement l'usage qui va être fait des biens sur leur territoire.
Donc là, il y a atteinte au droit de propriété.
Alors ça a été ce qui nous a été opposé au départ. On a eu beaucoup de mal en fait à trouver un biais juridique pour pouvoir le mettre. Donc on l'a mis sous forme de servitude et non pas d'obligation. Et ça a été le moyen de pouvoir le faire passer. Alors je vous dis pas qu'il sera peut-être pas, il sera peut-être retoqué, mais en soi, ça montrait l'objectif de dire bah voilà, il y a des endroits qui vont être dédiés à cet usage-là. Et pas d'autres. Et on voit que ça commence à faire des petits. Moi, j'ai une petite commune près de chez moi, effectivement, où ils ont déterminé des obligations dans les attributions qui sont, effectivement, de travailler à côté, de faire sa résidence principale pour donner les attributions de logements sociaux. Mais le logement social, de toute façon, par vocation, il est sur de la résidence principale. Donc, c'est plutôt déjà intéressant. Donc, il y a des modalités à mettre en place, je pense, par territoire. Le problème va être, bien sûr, le contrôle. Comment contrôler derrière que les gens ne changent pas l'usage, et c'est toute la problématique de ce dispositif. Maintenant, ne pas le faire, c'était aussi passer à côté de quelque chose. Donc je pense qu'il fallait quand même le mettre en place, et on restera vigilant effectivement sur l'application. Donc c'est l'un des moyens que l'on met en place dans le système. Maintenant, je crois que vu la crise que l'on vit actuellement, je crois qu'il y a une prise de conscience collective à avoir sur justement les biens. On vous parlait de vacances tout à l'heure, il y a eu des taxes.
C'est ce que fait le secteur immobilier, hein, régulièrement, de se
oui,
réinventer,
tout à fait,
de repenser.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on a besoin de vous tous, notamment sur ce conseil, pour pouvoir justement montrer que le logement n'est pas uniquement une valeur lucrative, c'est aussi une valeur patrimoniale et ça a vocation.
Est-ce que vous les écoutez suffisamment? Est-ce que le terrain, est-ce qu'il ne faudrait pas une meilleure compréhension, des réunions régulières, des retours d'expérience sur des décrets, des choses qu'on a jamais finalement?
Alors moi, rarement. Je pense personnellement vous connaître beaucoup, donc, et venir quand même à votre rencontre fréquemment, et au sein de l'Assemblée aussi, il y a fréquemment des réunions qui se font, on va aussi sur le terrain régulièrement, donc effectivement je pense que c'est notre rôle de député que de le faire. Les gens ne le savent pas souvent ce qu'on fait. Vous voyez, aujourd'hui je suis à Metz, alors je suis la députée de Quimper, demain je vais aller à Montpellier, je vais aller à Rennes, je vais en fait, je suis allée en Corse, je suis allée aussi dans les îles pour voir comment ça se passait. Donc on fait du travail de terrain, c'est peu perçu. Parce que je pense que c'est pas très glamour d'aller lire les rapports que l'on mène, mais moi j'ai toujours voulu que les rapports que j'ai pu faire, j'en ai fait je crois 5 sur le logement dernièrement, que tous ces rapports soient accessibles à tous. Donc c'est aussi dans l'autre sens, c'est peut-être aussi mieux diffuser les informations, ce que l'on fait, et mieux expliquer qu'on est là pour vous. Quand on est député, on est là pour l'intérêt général. On n'est pas là pour mettre des contraintes et des règles, on est simplement là pour accompagner une politique, là pour le coup d'aménagement de territoire et de, avec cette volonté de loger tous. Mais il y a cette volonté-là qui est affirmée, et je peux le dire, je pense, par de nombreux élus, parce qu'il n'y a pas que les députés, les territoires sont constitués d'élus qui sont en capacité aussi d'être acteurs, justement, de l'aménagement de leur territoire. Et on a parlé tout à l'heure notamment de rénovation. Il y a des très beaux projets, effectivement, dans les cœurs de ville. Et comme j'ai Julien de Normandie qui est là, c'est quelque chose qui a été essentiel pour nos territoires. Peut-être qu'il faut le rebooster, la loi de Normandie, pour refaire,
s'adapter à la société. Absolument.
Oui, non, je voulais juste rebondir. Clairement, là, on voit cette confrontation entre droit du logement et droit de la propriété. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Moi, ça me choque quand même, parce qu'on va obliger les propriétaires à utiliser leur logement d'une manière. Et là, vraiment, il y a confrontation de ces deux droits. Maître, est-ce que vous confirmez? Et ça peut devenir dangereux?
Oui, si vous voulez. Plus globalement, on a l'impression, si vous voulez, d'une certaine manière, depuis très longtemps, le droit de propriété et toute la conception idéologique qui s'y attache, d'une certaine manière, amène le législateur à s'auto-censurer. À s'auto-censurer, je veux dire par là, à être réticent à mettre en œuvre des dispositifs qui vont peut-être choquer du point de vue du droit de propriété. Pour les plus anciens, on se rappelle de la loi de 1967, la loi d'orientation foncière, etc. C'était une époque où on a essayé effectivement le plafond légal de densité, etc., de donner à la collectivité publique les moyens, en quelque sorte, de mobiliser le foncier dans des conditions optimales, sans être en dépendance, en quelque sorte, du droit de propriété. Et on est revenu là-dessus progressivement, le PLD en 2000, etc., etc. On est dans les départements de l'Est. Je rappelle quand même que dans nos départements, à une certaine époque, l'occupant, enfin l'État qui était occupant, avait mis en place une politique de municipalisation des sols. Et il me semble qu'il y a un gros déficit de la politique foncière. Ceci dit, et j'en termine, faute de pouvoir mettre en place des dispositifs plus radicaux, pourrait-on dire, du point de vue du droit de propriété, on est amené à mettre en place des dispositifs coercitifs. Alors, je me demande où est l'avantage du point de vue d'une conception libérale de la société, parce que, comme vous l'avez dit, Madame la députée, c'est une chose que d'imposer l'usage du bien, c'est d'autre chose que d'aller le contrôler. Et le contrôler, on est dans la coercition. Et je ne suis pas sûr que, finalement, la société soit prête à accepter ce genre d'ingérence.
Petite réflexion avec Julien Normandie qui était avec nous. Monsieur le ministre, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous aviez très envie de venir, mais malheureusement, vous avez un agenda chargé, surtout en ce moment. Petite synthèse de ce que vous avez entendu, et surtout, pour vous, quels sont les ponts entre ce droit à la propriété et ce droit au logement?
D'abord, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un immense plaisir que de pouvoir participer à de telles rencontres entre les professionnels. Et je voudrais vraiment saluer à la fois les syndicats, les professionnels et les élus qui sont aujourd'hui présents dans la salle. Le sujet, et la table ronde l'a bien montré, le sujet il est à la fois extrêmement compliqué, difficile, mais tellement important. Et peut-être un constat et une conviction pour répondre à votre question. Le premier constat, c'est qu'on est face, et Maître, vous l'avez très bien dit, on est face à deux droits qui sont des droits impérieux, pour ne pas dire essentiels, car le terme essentiel lui-même a une définition juridique. Des droits impérieux parce que le droit au logement fait un lien profond avec les inégalités. Le logement est probablement l'un des plus grands facteurs d'inégalité sociale dans notre pays, que ce soit au sein du foyer familial, dans l'éducation des enfants, dans le cadre qu'on peut leur apporter, que ce soit dans l'accès au travail. On sait à quel point le logement aujourd'hui est un frein pour beaucoup, cette fameuse assignation à résidence, quant à l'accès ou au changement de travail. Et en parallèle, le droit à la propriété, il est constitutif de nos sociétés, en tout cas de notre société. Vous l'avez très bien dit, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et alors, c'est là où on est face à une difficulté. On parle de droit, si on fait un parallélisme avec les libertés, vous savez, il y a cette fameuse phrase de l'économiste et philosophe anglais John Stuart Mill du début du 19e siècle au sujet de la liberté qui dit que la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. Ce qui est vrai pour la liberté, paradoxalement, ne l'est pas forcément vis-à-vis de ces deux droits. Ou sinon, on arrive souvent à des oppositions. Et c'est là où j'en viens à ma conviction, c'est que je pense qu'en fait, véritablement, le chemin ne pourra jamais, et Madame la députée l'a dit, la présidente de d'Aubrac l'a dit aussi, on ne pourra jamais s'en sortir en opposant les deux. Il faut forcément qu'on trouve un chemin de conciliation. Et c'est là où cette conciliation, et la table ronde l'a bien montré, est parfois très compliquée. Parce que la conciliation, en fait, c'est essayer de trouver les moyens de mettre une confiance au sein des relations entre les uns et les autres qui veulent faire valoir leurs propres droits. Alors, cette confiance, elle a plusieurs éléments. D'abord, il y a la confiance entre les propriétaires et les locataires. Cette confiance, quand j'étais ministre du logement, pour ceux qui me connaissent, je l'ai toujours mise en avant en disant arrêtons d'opposer les propriétaires et les locataires. C'est tout le travail qu'on avait pu faire avec les professionnels ici présents sur, par exemple, la garantie visale. C'est aussi des idées préconçues qu'on avait essayé de balayer d'un revers de main. Je pense à tous ceux qui disaient les jeunes payent moins leur loyer. Aucune étude le démontre et quand vous fêtez votre 30e anniversaire, vous ne devenez pas un bon payeur le lendemain de votre 30e anniversaire. Mais tout ça est très factuel. Il y a cette confiance entre propriétaires et locataires qu'il faut savoir construire, rétablir. Et sur ce volet-là, d'ailleurs, les agents immobiliers que vous êtes ont évidemment un rôle majeur à jouer parce que par l'intermédiation de la relation, vous êtes les agents de cette confiance. Ce que j'ai eu l'occasion d'exprimer à plusieurs reprises en allant parler devant les syndicats, vous êtes ces agents de la confiance à établir entre les uns et les autres. Alors la confiance, elle a un deuxième volet, c'est la confiance vis-à-vis du cadre réglementaire. Et ça, c'est essentiel. Quand je suis un propriétaire, je veux que la loi telle qu'elle est définie puisse être appliquée. Et tant qu'il n'y a pas cette effectivité dans le cadre réglementaire, on en vient à devoir développer d'autres outils comme celui que j'évoquais tout à l'heure, comme la garantie visale. Et quand je suis un citoyen, je veux que la loi puisse s'appliquer, qu'on fasse la loi Dalo. Et parfois, par manque d'effectivité, pour plein de raisons, on en vient à créer des situations qui sont des situations de blocage. Je me souviens par exemple quand on aménageait la loi Dalo sur les publics prioritaires. On rajoutait des publics prioritaires, mais aujourd'hui, on doit avoir 12, 13 ou 14 publics prioritaires dans la loi Dalo, ce qui veut dire qu'en fait, la loi elle-même a du mal à être effective. Et donc, il faut absolument que, et ça, c'est la responsabilité des politiques, des députés parlementaires, et je salue Annaïk Blumer qui fait un très, très, très gros travail là-dessus, des ministres, c'est d'avoir un cadre réglementaire qui soit lisible, visible, et surtout de l'esprit des lois de Montesquieu qui soit effectif.
Mais monsieur le ministre, pardon, mais permettez-moi de vous couper. Tous ces gens-là, enfin en tout cas tous les professionnels de l'immobilier, aujourd'hui on fait le constat que ce qui a été mis en place peut sur certains sujets ne pas tenir la route. Il faut une accélération, la société va très vite. Si à chaque fois on remet les choses en perspective, on réinvente, comment peut-on travailler dans une accélération de l'organisation et de la mise en place? C'est ça qui nous attend, je pense.
Oui, bien sûr. Mais enfin, je sur ce sujet qui est de la conciliation du droit au logement versus du droit de propriété, ce qui est sûr, c'est que l'accélération, elle viendra pas de se dire on va tout mettre d'un côté ou tout mettre de l'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein d'idées qui ont été évoquées pendant la table ronde qui sont d'ailleurs pas des sujets nouveaux, hein, que ce soit sur la question des meublés, que ce soit sur le rapport au foncier, que ce soit sur l'accélération des constructions. Maître disait tout à l'heure, le problème de fond, c'est que, et c'est vrai, il faut toujours revenir à la source, le problème de fond, c'est qu'on est en train d'opposer ces deux droits, précisément parce qu'il n'y a pas assez d'accessibilité au logement. C'est vrai, le problème de fond, il est là. Comment on fait pour construire plus? Comment on fait, c'est un autre sujet de confiance, comment on fait pour donner accès aux primo-accédants? Aujourd'hui, on a des systèmes pour les primo-accédants qui dépendent de deux choses, qui dépendent du niveau du taux d'intérêt et qui dépendent de la fiscalité. Ça ne peut pas être pérenne, parce que sinon, à chaque fois qu'on a un mouvement sur ces fiscalités ou sur, et c'est le cas aujourd'hui, on le sait bien, on est tous conscients des enjeux budgétaires, ou sur les taux d'intérêt qui ne sont même pas dans les mains des pouvoirs publics, puisque c'est au niveau européen, on fait quoi? On se dit on est le bec dans l'eau? Donc non. Donc l'accélération, elle est d'abord dans l'essence, comment on arrive à accélérer sur la simplification des normes, à accélérer sur l'accessibilité du foncier tout en préservant les enjeux environnementaux, à être innovant dans les sujets de financement. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus innovant que nous le sommes jusqu'à présent, à évidemment lutter contre la vacance. Et la vacance, en vrai, ça fait des décennies qu'on lutte contre la vacance. Maître, je crois, disait tout à l'heure, il y a le sujet de la taxation des logements vacants. Taxation des logements vacants, si ça marchait, ça serait.
Oui.
C'est pas vrai, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce que la personne qui met pas en location son logement, c'est pas une question financière pour lui. C'est complètement irrationnel de pas mettre en location son logement. Et donc, commencer pour cette vacance, typiquement, c'est une question de confiance.
Merci.
Si la personne ne met pas en location, c'est une question de confiance. Prenez la garantie visale que j'évoquais. Garantie visale, on en parle très peu. Ça a cartonné, en vrai, les chiffres de la garantie visale. Et garantie visale, ça n'est qu'un visage de cette confiance. Donc, moi, ce que je dis, et je pense que c'est très important, parce qu'encore une fois, les agents immobiliers on est dans un système intermédiaire. Et donc, sont des intermédiaires de cette confiance. Mmh. Et donc, il faut responsabilité des pouvoirs publics, accélérer à la source la construction, l'accès, la primo-accession, les sujets de financement. Deuxièmement, être globalement...
Et on conclura.
Tous les acteurs, être ces agents de la confiance.
Merci mille fois, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un honneur de vous avoir accueilli et on remercie bien entendu l'ensemble de nos invités. Danielle Aubrac, qui est présidente nationale de l'UNI, Anaïg Lemeur, députée de la première circonscription du Finistère et rapporteur du logement PLF 2024, Jean-François Prévost, directeur général de Batigère Group, et maître Pierre Solaire Couteau, avocat au barreau de Strasbourg et professeur à l'université de Strasbourg. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On fait une petite pause, on revient. À tout de suite.
Les Assises de l'immobilier de Metz 2024 sur Radio Immo.